les drogues dangereuses.
Pour combattre efficacement ce fléau, il faut que chacun d'entre nous essaie de concevoir et d'imaginer ce qui se déroule dans l'esprit envoûté des toxicomanes. Par exemple, un toxicomane sous l'empire des drogues appelle le mégot un roach, un cafard, disons. Car il y voit un genre de cafard. Or, ce genre de comparaison morbide...
Putain, mais de quoi il parle, ce con-là? Il faut être raide à l'acide pour trouver qu'un joueur ressemble à un cafard. Dieu de merde.
Tous les lundis, à 21h, sur Radio Canu.
Cannabis Circus.
Cannabis Circus.
Cannabis Circus, bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous êtes bien sûr Radio Canu 102.2 MHz, la plus rebelle des radios.
Bonsoir.
Et comme tous les lundis soirs, c'est l'émission du cirque, du collectif d'information et de recherche cannabique. Et donc on va vous parler de chambre, on va vous parler de plein de choses comme tous les lundis. On va vous rappeler un petit communiqué de presse que le cirque a fait après le passage au Sénat et d'Esther Benbassa et tout ça. Donc on reviendra un tout petit peu là-dessus. Après, on reviendra sur Taubira qui va peut-être aller vers un assouplissement. On va voir. En tout cas, pour l'instant, il y a des contrôles. On va voir ça dans le Loir-et-Cher, un petit exemple. Voilà un petit peu pour la tendance en France. Sinon, il y a un médecin qui enfin se lance et qui dit que l'alcool est plus dangereux que le cannabis et qu'il faut légaliser. Voilà, un autre article sur Marseille. Faut-il légaliser pour tuer le trafic? Déjà posé la question, je pense que c'est un peu y répondre.
Oui, mais dans le Midi Libre, il faut le souligner quand même.
Voilà, donc
bientôt le progrès et c'est bon quoi. Visiblement, le Midi Libre est un peu en avance par rapport au progrès, quoi. Le progrès qui est très très fort dans la rédaction, la mise en place d'articles.
Voilà, puis
on
finira par Le Figaro qui explique comment on peut arrêter grâce au cannabis. Arrêter le cannabis plutôt.
C'est Carilla qui s'exprime.
Voilà, sinon après on verra si on revient sur un très grand article de la Sensicide. Qui explique très bien la situation aux Pays-Bas. Et sinon, on verra plein de petites brèves à un moment ou à un autre de l'émission, on essaiera de les faire. Voilà, des petites choses qui sont assez sympathiques. Le Nouveau-Mexique qui devrait légaliser des études aux États-Unis, l'alcool et le cannabis. Sur la route, a priori, l'alcool serait plus dangereux que le cannabis, donc ça tendrait à aller vers... dans le sens de la direction de l'étude de l'INRET qu'il y avait eu, c'est ça? C'était bien l'INRET?
C'était l'INRET qui avait effectivement. Oui, enfin l'étude stupéfiant accident mortel de la circulation routière qui a maintenant 10 ans.
Voilà.
Enfin qui a plus de 10 ans mais qui a été rendue publique il y a 10 ans, ouais.
Et là maintenant les dernières études aux États-Unis iraient dans ce sens-là.
Oui, mais il y en avait déjà d'autres avant qui allaient déjà dans ce sens-là, donc bon, ça change rien, c'est toujours un peu pareil, mais
oui, mais c'est
mais
bien
bon,
de,
une
c'est
étude de plus va dans ce sens, en effet. Oui.
Un jour ou l'autre, ça arrivera aux études, aux oreilles de nos...
Non, je pense pas.
Ils sont pas totalement autistes.
Si.
Il faut espérer,
je pense que si. ils sont peut-être pas... Bon, on va reparler, allez, la musique.
Voilà, tout de suite avec de la musique.
Un peu de blues, c'est ça d'abord?
Ouais.
Thank you.
c'était Smoking Giant de Kim Wilson.
Voilà. Un morceau mythique du rock des années il y a longtemps.
Ouais. C'était même avant nous, c'est pas peu dire.
Oubin.
Comme quoi, hein, on n'a rien découvert.
En effet. Donc, oui, alors on va se replonger un peu dans le vif de l'actu du sujet. Suite à la présentation au Sénat mercredi dernier de la proposition de loi, enfin mercredi il y a 15 jours plutôt, pardon, de la proposition de loi d'Europe Écologie Les Verts menée par Madame Esther Benbassa. Donc après ces débats et les résultats qu'on connaît ou que vous ne connaissez peut-être pas, mais du coup on va vous le rappeler en vous lisant le dernier communiqué de presse du CIRC qui réagissait suite à ce fameux mercredi 4 février. Je vais vous lire le communiqué de presse du CIRC intitulé « Un débat fumeux au Sénat ». La présentation au Sénat le mercredi 4 février de la proposition de loi de Mme Esther Benbassa visant à un usage contrôlé du cannabis a permis de mesurer le niveau d'information et surtout d'écoute de la poignée de sénateurs et sénatrices présents et présentes ce jour-là. Car force est de constater que sur un sujet aussi sérieux que celui-ci, la mobilisation de nos élus était plus que relative puisqu'ils étaient seulement 36 à s'être déplacés pour entendre les arguments avancés par le groupe Europe Écologie Les Verts, c'est-à-dire à peine 10% de l'ensemble des sénateurs. Malgré une présentation très argumentée sur l'échec de la prohibition et sur l'urgence de légaliser l'usage du cannabis, la plupart des réflexions, qu'elles viennent de la gauche ou de la droite, n'ont pas été à la hauteur du sujet développé par Esther Benbassa puis par Jean Desessard, le rapporteur de la Commission des Affaires Sociales, n'hésitant pas à ressasser, quitte à se ridiculiser de fallacieux arguments largement démentis par l'expérience de terrain, telle la fumeuse théorie de l'escalade. La plupart des intervenants se sont une nouvelle fois abrités derrière le bien commode bouclier humain de la jeunesse pour justifier une approche sanitaire de la question du cannabis. Quand nos dirigeants et nos dirigeantes prendront-ils et prendront-elles conscience que c'est en termes culturels et non de santé publique que notre société devrait traiter le sujet du cannabis, au même titre que la vigne, le cannabis représente désormais une filière où se retrouvent des amateurs éclairés de chanvre et de talentueux cannabiculteurs, soucieux de préserver une biodiversité qu'une légalisation contrôlée par l'État risquerait de sérieusement mettre à mal. C'est pour ces raisons et d'autres encore que la Fédération des Cirques émet quelques réserves quant à la proposition présentée par le groupe Europe Écologie Les Verts du Sénat, tout en reconnaissant la valeur historique de cette initiative. Et la Fédération des Cirques en appelle à Madame la Garde des Sceaux pour qu'un signal fort et sans ambiguïté soit lancé à l'attention de l'opinion publique en abrogeant l'article L3421-4 du Code de la Santé publique dont l'existence même interdit toute remise en cause de l'idéologie prohibitionniste. Christiane Taubira indiquerait que la société française est prête à sereinement aborder le débat. Voilà, un peu pour ce communiqué de presse du CIRC suite au pseudo-débat sénatoriaux. Enfin, on va dire qu'il y a quand même eu des débats, c'est un peu sévère en disant pseudo, mais bon, c'était tellement pas nombreux que bon.
Non, mais...
Voilà.
Sinon, ben justement, comme on en appelle à la Garde des Sceaux, elle
répond, va en causer.
Et c'est même dans le Figaro Actualité, cannabis, Taubira étudie un allègement des sanctions. Donc c'est Paul Gonzalez et Jean-Marc Leclerc qui écrivent ça. Et donc, il continue en sous-titre, pour les partisans du changement, il s'agit au minimum de déclasser la consommation en simple contravention. Voilà ce que avance prudente la Garde des Sceaux, parce qu'elle dit que de rien faire ça conduirait à la lâcheté, puisque actuellement c'est un petit peu n'importe quoi ce qui se passe, hein, pour faire un peu court. Elle a quand même eu pas mal de petits travaux ces derniers temps, et dans plusieurs on avait relaté que ça parlait de légalisation du cannabis, de tous les avantages que ceci aurait.
Ouais, Christiane Taubira, on le rappelle, hein, qui historiquement est une alliée du CIRC, hein,
Tout à fait.
On l'a rencontrée, on a discuté avec elle. Elle est plutôt, normalement, elle est quand même plutôt d'accord avec nos idées, quoi. Bon, voilà. Après, il se trouve qu'elle est, elle est ministre de la Justice d'un gouvernement avec à sa tête un mou et comme Premier ministre un Sarkozy du PS. Donc, malheureusement, c'est mal barré. Et elle n'ouvre pas trop sur le sujet. Alors, elle essaye. Elle essaye. Voilà. Elle va essayer, en tout cas, elle va essayer.
Voilà, alors le minimum, a priori, alors ça c'est des on dit, c'est des, dans l'entourage, donc il n'y a rien de sûr, hein, c'est quand même. Il s'agit au minimum de déclasser la consommation en simple contravention. L'infraction resterait alors dans le champ pénal, mais ne serait plus un délit passible de prison. De quoi certes permettre de désengorger les tribunaux asphyxiés par le traitement des délits que certains considèrent comme mineurs. Mais aussi de revoir à la place du juge la pénalisation de la consommation du cannabis avait une vertu, celle de permettre de montrer les de remonter les filières de la drogue grâce aux consommateurs qui étaient placés en garde à vue.
C'est un mensonge, hein, d'ailleurs. C'est un gros mensonge, ça. Arrêter les trafiquants, les petits consommateurs pour remonter aux gros trafiquants, c'est un mythe, faut le savoir, absolument. D'ailleurs, dans les statistiques de la répression ces 40 dernières années, quand on regarde, il y a une certaine stabilité dans le nombre de trafiquants arrêtés, de trafic démantelé. Par contre, il y a une augmentation continue et sans cesse, en fait, du nombre d'interpellations d'usagers, de petits usagers, quoi, en fait. Si c'était vrai, ce que dit ce monsieur de l'USM, là... l'augmentation continue du nombre d'usagers interpellés aurait permis une augmentation continue du nombre de trafiquants, ce qui n'est pas vrai. Voilà. Et d'ailleurs, la priorité de la lutte contre le cannabis, c'est d'abord une lutte contre les consommateurs. Et ça l'a toujours été. Voilà. Et je dirais que c'est un peu pareil pour d'autres sujets, genre par exemple... la prostitution, ce qui se trouve que j'en connais un petit peu, l'arrestation des prostituées, soi-disant, pour racolage, qui aurait permis de démanteler des réseaux, est faux, également. Et c'est confirmé par différents travaux qui ont été menés par des organismes comme Interpol ou Europol, et qui expliquent que l'arrestation des trafiquants de drogue ou de traite humain, etc., est beaucoup, beaucoup plus facile et efficace si on passe par un traçage des flux financiers rapatriés dans les pays. Parce que ça se voit comme le nez au milieu de la figure, en fait. Plutôt que de s'intéresser aux petits pour remonter vers les gros, en fait. Voilà. Encore un mensonge de plus. que le cirque... Grâce à vos serviteurs, ont permis de faire tomber. Voilà. J'exagère un peu, hein, je rigole, mais bon, c'est vrai, hein, cette histoire de trafiquants là, qu'on pourrait interpeller parce qu'on pourrait arrêter les usagers, c'est n'importe quoi. Je te laisse.
Voilà, là j'étais en train de chercher, donc c'est c'est qui cette personne qui est patron de l'USM
Christophe Reignard.
Christophe Reignard, voilà, merci. Qui dit, à minima, nous ne sommes pas opposés à la contravention. Nous ne sommes pas très loin du dispositif qui consiste à faire intervenir des agents des douanes à côté des policiers pour verbaliser les trafiquants de drogue, puisque les douanes verbalisent selon la quantité. Donc c'est le syndicat de la magistrature qui souligne ça, et lui qui milite toujours, le syndicat par contre, pour une légalisation contrôlée du trafic de cannabis et pour une dépénalisation pure et simple des stupéfiants. Voilà, après il rappelle qu'il y a une croissance exponentielle de la consommation, les policiers ils en peuvent plus, ça les intéresse pas.
Ça les intéresse pas parce que d'après l'article, en tout cas, là aussi je trouve qu'il faut peut-être un tout petit peu s'y attarder parce que la situation en France est quand même assez paradoxale, quoi. On a une loi très dure, il y a donc des peines de prison très sévères qui sont prévues pour soi-disant lutter. La France est le pays où l'on consomme le plus. Et apparemment, d'après ce qu'on lit dans cet article, la police, voyant qu'il y a assez peu de poursuites et que selon les endroits, les parquets sont assez peu enclins à poursuivre pour des petites quantités. Puis en plus, après, il y a l'application des peines qui est complexe à mettre en œuvre et qu'il y a une carence de personnel et de juges d'application des peines en France qui fait que ils ont des centaines et des centaines de dossiers à suivre, qu'en plus bien souvent l'application des peines n'est pas exécutée. Donc, il semblerait qu'il y ait un certain renoncement aux poursuites. Mais en même temps, c'est pas vrai, on le sait. On sait, dans un travail effectué par l'OFDT, que tous les ans en France, alors même si l'exécution des peines n'est pas parfaite, mais on sait quand même qu'en France, il y a tous les ans environ 3000 peines de prison, de personnes qui sont condamnées à de la prison ferme pour des affaires de cannabis. Enfin, de drogue, et 90% pour des affaires de cannabis.
Surtout avec les peines planchées.
Et oui, et en plus, qui existent toujours. On sait moins également que sur ces 3000 condamnations, il y a encore une fois, et depuis très longtemps maintenant, environ 500, 800 personnes, 1000 personnes qui font de la prison pour une possession de petites quantités de cannabis ou un usage. Ça arrive, donc c'est pas si vrai. Même si, effectivement, le contentieux est tellement énorme, que c'est quand même 150 000 interpellations par an, que sur ces 150 000, comme je vous disais, 500 000 personnes finissent en prison, mais il y en a quand même beaucoup d'autres, effectivement, qui ne sont que très peu inquiétés, voire pas, parce que il y a des chanceux qui passent à travers les fourches codines de la loi et qui voient leur peine... Même pas mettre en mise en œuvre d'exécution, quoi, en fait.
Oui, et puis d'autres tout simplement qui, parce que ils présentent bien, les policiers les relaissent partir sans rien, ou juste en leur confisquant leurs marchandises. Ça arrive aussi.
Oui, ça arrive, ouais, assez régulièrement, bien sûr. Ouais.
Donc ça fait partie de l'injustice ordinaire, on va dire.
Oui.
Donc sinon après l'article, qu'est-ce qu'il fait? Il rappelle un peu de différentes dates, entre autres le rapport Vaillant, donc l'ex-ministre de la Justice de Jospin.
De l'Intérieur.
Sous Jospin, qui juste après avoir été ministre, a été et est toujours d'ailleurs un partisan de la légalisation et tout ça, parce que ça crée des problèmes dans les banlieues, la prohibition est pire que le mal.
Après avoir été
le soi-disant mal.
Voilà, après avoir été un pionnier dans les lois sécuritaires avec la loi de sécurité quotidienne avant la loi de sécurité intérieure, Monsieur Vaillant a visiblement compris que le tout répressif et la prohibition n'étaient pas la solution. Et qu'il avait comme projet de mettre en place 53 000 hectares cultivables et des cannabistros contrôlés par les douanes pour que les jeunes fumeurs ne fument plus dans les cages d'escalier. Mais personne n'avait pris cela bien au sérieux. Ensuite, dans l'article, on continue avec la fameuse proposition de Rebsamen à leur maire de Dijon, qui proposait justement une contraventionnalisation recalée par Hollande.
Au moment de son élection, d'ailleurs. Et depuis, c'est la ligne dure.
La ligne valsienne.
Hollandaise déjà, et valsienne en plus, qui est la même là-dessus, sur ce sujet en tout cas. Il y avait quand même notre amie écologiste Cécile Duflot qui s'était fait rappeler à l'ordre quand elle avait rappelé que les Verts étaient pour la légalisation du cannabis. Mais on va voir si Taubira...
On va voir si Madame Taubira, visiblement... Alors, juste pour finir là-dessus, ça avait fuité un peu dans le rapport Nadal, en fait. Le rapport Nadal sur la refondation du rôle du procureur. Donc c'était un travail qui avait été effectué l'année dernière, il y a à peu près un an, justement. Dans ce rapport, il y avait l'idée de foutre un peu la paix aux fumeurs, quoi. Donc on va pas s'en plaindre, Madame Taubira, je dirais un peu comme en son temps Elisabeth Guigou, à l'époque ministre de la Justice sous Jospin, Madame Guigou avait elle aussi également tenté de faire quelque chose en faisant tourner une circulaire, en transmettant une circulaire dans les commissariats, les gendarmeries, recommandant aux policiers, aux gendarmes de s'abstenir de poursuites pour des petits consommateurs de cannabis. À son tour, Madame Taubira tente ce genre de tactique. Voilà, je le vois un peu comme ça. Alors, pendant que tu prépares notre prochain morceau de musique, je vais...
Oui, on va continuer.
On va parler un peu de cannabis au volant. Pas grand-chose dans cet article. Hein, un article de la NouvelleRépublique.fr nous parle un peu de ce qui se passe dans le Loir-et-Cher et dans les pays de la Loire en général, hein, au niveau de la lutte contre la consommation de stupéfiants au volant. Voilà, tout ça pour... en fait, juste cet article pour encore une fois, insister sur le fait que il faut faire attention hein, quand on prend son véhicule ou son véhicule, hein, à deux roues, à quatre roues d'ailleurs, hein, ou à plus de quatre roues, parce qu'il y en a qui sont aussi conducteurs de poids lourds. Voilà, donc tout ça pour vous rappeler que depuis quelques mois, l'État français essaye de... mettre en place un test salivaire plus fiable tout simplement, qui permettrait d'éviter un contrôle sanguin par la suite. Donc il y a des opérations expérimentales qui sont de contrôle du cannabis au volant, mais pas que, hein, d'autres substances aussi comme l'alcool, dans un certain nombre de départements pilotes. Et on veut savoir un peu qu'est-ce qu'il en est de ce nouveau test salivaire, mais c'est aussi l'occasion pour choper un paquet de conducteurs qui auraient fumé ou bu au volant. J'ai pas beaucoup de choses à dire.
C'est la Nouvelle République hein, qui a fait ça. C'est pour se faire mousser quelques personnes, le colonel du coin, etc. Quoi, ça fait plaisir. En tout cas, le week-end, qu'est-ce qu'il y a eu? 131 infractions à la vitesse, dont 5 rétentions immédiates du permis et 45 excès de vitesse relevés par radar automatique embarqué. Ils ont même aussi la nouvelle technologie. Hein. 13 conduites en état alcoolique, donc 3 avec rétention immédiate du permis. Et 2 pilotes de deux roues, avec quand même un conducteur qui a été verbalisé 2 fois au cours de la même soirée, quand même. Hein.
Et en plus, la deuxième fois, il avait bu en plus.
Un peu plus, voilà, 0,35 à 0,39.
Donc entre la première arrestation et la deuxième, il a bu encore un petit verre ou deux.
Voilà, donc ça fait quand même... et par contre, 2 conduites stupéfiantes... Avec stupéfiant et avec...
Alors attention...
Deux conduites stupéfiantes avec 2 rétentions.
Oui, alors je ne sais pas si tu as remarqué, il y a eu 13 conduites en état alcoolique avec 3 rétentions du permis seulement. Enfin, 3 rétentions du permis. Et 2 pilotes de 2 roues. Bon, bref, donc 13 conduites en état alcoolique, 3 rétentions immédiates du permis. 2 conduites stupéfiantes, 2 rétentions.
Tout à fait.
Voilà, donc encore une fois... C'est bien la preuve ici, en tout cas, et c'est en chiffres, hein, c'est pour ça que j'avais mis cette partie, que, moi je trouve, il y a une discrimination.
Il y a une discrimination,
voilà.
Tout à fait.
Et qu'on ne traite pas visiblement les conducteurs sous l'emprise de stupéfiants, sous l'emprise entre guillemets, hein, parce que j'aimerais en savoir plus. Hein. On ne les traite pas pareil que des gens qui ont bu. Ou visiblement, là, pour certains, en tout cas, ou la plupart, hein, d'ailleurs, ils ont pu repartir... avec leur permis et leur voiture, alors qu'ils étaient positifs.
Ouais. Du coup, avant de partir en musique, moi, je ferais bien un petit tour juste aux États-Unis, là.
Sur l'étude sur la conduite automobile. Ouais. Tu as raison, c'est l'occasion d'en parler.
Voilà, c'est un Combini. C'est un truc américain.
Non, c'est un article, un site internet, combini.com.
D'accord.
Je connaissais pas, mais bon, il y a beaucoup de nouveaux sites internet maintenant.
Tout à fait. Donc, conduire sous cannabis, moins dangereux que l'alcool. Le gouvernement américain vient de faire paraître une étude controversée attestant qu'un risque d'accident de la route serait moins important sous weed que sous l'influence de l'alcool.
Alors, c'est pas, alors le gouvernement américain, c'est la...
National Highway Traffic Safety Administration.
Voilà.
Voilà, pour... donc, elle a rendu son enquête de l'influence des drogues et de l'alcool sur les conduites. Et donc, après, bien sûr, le bien commun, la voiture ne doit pas être utilisée que lorsque le conducteur est sobre. Mais l'étude va jusqu'à affirmer que le risque d'accident ne varie quasiment pas selon que le conducteur a consommé du cannabis ou qu'il est parfaitement sobre. Voilà, alors qu'un taux d'alcoolémie de 0,05%, soit 50 mg par, 100 millilitres, par millilitre de sang, fait septupler le risque d'accident, le cannabis n'influerait que beaucoup moins. Donc, évidemment...
Bah, ça confirme une fois de plus ce qu'on sait sur le comportement des automobilistes qui ont usé de cannabis avant de prendre le volant et qui étaient déjà signalés dans de nombreuses études, avant même l'étude stupéfiant à accident mortel de la circulation routière. Hein. Mais les travaux du Sénat canadien le démontraient déjà et même dans le rapport final, il était écrit... que les consommateurs, les conducteurs, étant conscients d'avoir consommé un produit qui modifiait un peu leur état de conscience, adaptaient leur consommation à la circonstance. Et que du coup, ben, forcément, il y avait assez peu d'accidents ou de risques d'accidents par la suite. Les premières études sur la conduite automobile et la consommation de cannabis, elles sont déjà anciennes. Je crois qu'elles datent de la fin des années 70. Hein. Déjà à l'époque on s'était rendu compte de ça. Alors effectivement il y a l'étude stupéfiant accident mortel de la circulation routière commandée par Jospin en 99, rendue publique en 2005 et alors ce qu'on demandait aux chercheurs c'était de mettre en évidence un effet dose en fait, et effectivement le rapport, ils ont mis en évidence un effet dose sur au niveau de la consommation du cannabis, mais ce qu'ils disaient surtout c'est qu'en fait ce qui était dangereux au volant, c'était un mélange cannabis plus alcool. Multiplié par 15.
Voilà, l'étude avait montré que l'alcool était vraiment dangereux. Hein, ça se multipliait par 8 ou 9 par 9. Et additionné à l'alcool, au cannabis, ça multipliait par 2.
Par 15.
Voilà, par 15.
Par 15, oui. Les risques d'accident mortels.
Oui, mais 8 encore par 2. Quoi.
Voilà, exactement. Oui. Donc, au final, voilà, ça faisait 15.
Ce qui est la même chose, en fait, pour un jeune conducteur, moins de 6 mois, il a aussi un risque multiplié par 2. Quelqu'un qui voit mal, il a aussi un risque multiplié par 2. Voilà, il y a différents...
Voilà, et en termes de chiffres et d'accidents et de morts, ce que montrait l'étude, c'était que la consommation d'alcool... provoquant en France environ 2300 morts par an, et que pour le cannabis, alors c'était en plus c'était au conditionnel, ça provoquerait environ 300 morts. Voilà. Donc il n'y a pas photo. Et qu'en fait ce nombre de 300 victimes était assez comparable avec d'autres circonstances, comme par exemple tripoter une cassette ou un CD avec son poste, utiliser son téléphone portable, ou manipuler.
Téléphone portable.
Je crois que c'est encore plus que 300, ouais. Manipuler quelque chose dans sa voiture. Alors, ce qui entrait en ligne de compte aussi, c'est effectivement le jeune conducteur, l'absence du port de la ceinture de sécurité. Cette étude va confirme en tout cas tout ce qu'on sait à peu près sur le cannabis au volant.
Voilà, et sa non dangerosité ou sa très faible dangerosité. Voilà.
Alors juste pour finir là-dessus, oui, il y a un truc qui est intéressant, c'est que le nombre de conducteurs contrôlés positifs au cannabis dans le Colorado durant les nuits du week-end est passé de 8,6 à 12,6% entre 2007 et 2014.
Voilà. Ce qui m'étonne le plus, c'est qu'en 2007, il y en avait déjà 8,6% quand même.
Oui, effectivement. Alors, il y a quand même des opposants à la légalisation du cannabis et qui justement, ils disent « Oui, mais regardez, depuis que c'est légalisé, il y a encore plus de gens qui consomment du cannabis avant de conduire. » sauf que en fait ça fait pas augmenter l'accidentologie routière en fait. C'est voilà. Donc bon.
Voilà. Et ce qui était marrant, c'est que quand ils faisaient les études justement sur les boîtes de nuit ou chez les jeunes, puisqu'ils contrôlent souvent les jeunes le samedi soir, ils remarquent qu'il y a quasiment la même prévalence entre l'alcool et
le cannabis.
Et le cannabis. Ouais.
C'est intéressant également. Voilà. Allez, un peu de musique et on revient tout de suite après.
Ouais.
La ganja.
Voilà.
Voilà. 188.
Alors maintenant, on va voir, on va aller avec Courrier des Yvelines, qui a interviewé un médecin, Michel Crouzet, qui est médecin addictologue au centre hospitalier de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, et il exerçait depuis une vingtaine d'années.
Il exerçait.
Oui, il exerce.
Voilà.
Il exerce et il exerce toujours depuis une vingtaine d'années. D'ailleurs, tu le connais bien puisque c'est toi qui vas le représenter.
D'accord, si
donc,
tu veux.
Voilà. Donc, ils font cette interview dans le cadre du débat qu'il y a eu à l'Assemblée, hein, parce qu'évidemment, les journaux, il leur fallait quand même quelque chose pour pouvoir parler du cannabis. Et donc, ce débat à l'Assemblée leur a donné l'occasion d'interviewer ce professeur, donc, monsieur Michel Crouzet. Et donc, on lui a posé quelques questions, comme, êtes-vous favorable à la légalisation du cannabis, monsieur Crouzet?
Alors, monsieur Crouzet, il dit, la politique répressive est un échec. Le nombre de consommateurs de cannabis en France stagne. L'interdit a tendance à favoriser la consommation. Il faudrait autoriser le produit et réguler le marché dans le cadre d'un monopole public. Cela permettrait d'avoir un impact sur le prix. qui peut être un levier dans la dissuasion, la qualité du produit et faire diminuer, voire cesser le trafic. Cela ne peut se faire que dans le cadre d'une politique de santé publique.
D'accord, donc vous avez dit oui alors.
Oui,
vous avez dit oui.
Oui.
Êtes-vous favorable à la légalisation des cannabis?
Oui.
Vous avez dit oui.
Oui.
D'accord. En quoi la consommation de cannabis est-elle dangereuse?
Il y a un danger pour le système respiratoire dû à la combustion, mais nous n'avons pas encore assez de recul pour estimer les dommages. Comme pour beaucoup de produits, c'est l'abus qui représente un véritable danger et le mauvais usage du cannabis altère le système cognitif. Cela engendre des problèmes de concentration, d'apprentissage et de développement cérébral, bien que des études prouvent que cette consommation ne laisse pas de séquelles. Les risques de cette consommation abusive, c'est aussi la désinsertion sociale, scolaire, familiale, affective. À forte dose, le cannabis peut provoquer des bouffées délirantes.
Voilà, et il y a bien l'effet dose, hein. Y a une consommation raisonnée, a priori, ça gêne pas.
Ah mais je dis pas ça.
Voilà, tout à fait. Non, mais c'est
dans
moi
l'interview.
Qui rajoute. Je vais vous poser une autre question, Monsieur Crouzet. La consommation de cannabis peut-elle être sans danger?
Tout usage peut être acceptable s'il n'entraîne pas de dommages collatéraux. Il n'y a pas de mal à boire un verre d'alcool de temps en temps.
D'accord, donc le cannabis ne provoque pas de mort, hein, c'est le journal qui l'affirme. L'abus d'alcool et l'abus de cannabis sont-ils comparables?
En termes de dommages entraînés, l'alcool est plus dangereux que le cannabis. La première drogue en termes de mortalité, c'est le tabac. Le cannabis ne provoque pas de mort.
Et le cannabis rend-il dépendant?
Alors oui, il y a une dépendance physique et psychique. La période de sevrage dure une quinzaine de jours environ. Le manque peut provoquer une hyperexcitation, une intolérance à l'autre, des insomnies et des angoisses intenses.
Voilà. Bon.
Voilà ce qu'il dit, Monsieur Crouzet.
Sur la dépendance, je pense qu'il y a des addictologues qui sont un petit peu plus nuancés que lui, mais.
Disons que c'est un article qui est court et on connaît la tendance. Synthétique de beaucoup de journalistes qui gardent ce qui les arrange et là. Il est contre la prohibition, il veut un changement.
Ah oui, il est favorable à la légalisation du cannabis, il le dit bien, oui.
Carrément, hein, je pense qu'il a dit bien d'autres choses dans cette interview qui ne sont pas mentionnées dans l'article.
Tout à fait.
C'est dommage, mais bon, c'est quand même bien. Hein.
Et d'ailleurs, c'est rare de... d'entendre des médecins qui parlent aussi...
Librement. Sans craindre les foudres de je ne sais quoi... ou pour leur carrière, leur légitimité, bref, je sais pas.
Voilà. En tout cas, autre article qui va aussi dans un sens étonnant, hein, c'est dans le Midi Libre. Faut-il légaliser le cannabis pour tuer le trafic? Par Michel Richard. Donc, ce qui s'est passé est un banal accident hallucinant. Le patron de la police, sur qui l'on tire la Kalachnikov parce qu'il s'est rendu dans ce quartier tenu par des trafiquants.
Oui, alors, ça fait référence au déplacement du Premier ministre à Marseille la semaine dernière.
Oui.
Accompagné du patron de la police.
Voilà, il allait donner des chiffres élogieux sur Marseille, qui était passé de 10 morts à 10 morts.
La lutte contre la criminalité organisée à Marseille, les règlements de compte.
C'est ça que j'en ai retenu, moi, mais bon.
Et visiblement, ils ont été bien accueillis, c'est ça?
Voilà, et donc il y a eu des tirs à la Kalachnikov.
D'accord.
Dans un des quartiers.
Assez peu intéressé, donc je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Mais...
Non, dans un des quartiers de la Castellane. Voilà, c'est un des quartiers nord de Marseille. Voilà. Donc bon, ça tire quand même régulièrement à Marseille. Hein.
Alors, juste pour un petit rappel, la Castellane, il y a une quinzaine d'années, c'était une grande fierté à Marseille. Vous savez pourquoi? Parce qu'on disait que Zinedine Zidane, qui est un gars qui joue au ballon, il venait de là-bas et que vraiment c'était le produit des quartiers nord de Marseille, que voilà, ces quartiers avaient produit donc l'un des plus immenses joueurs de foot du monde. Et 16 ans après, apparemment, on voit plus la Castellane sous le même angle. Hein.
D'accord. Donc voilà, c'est bien que tu me le rappelles. Moi, c'était quelque chose sur lequel j'étais totalement passé à côté.
Oui, j'ai pas inventé. Hein, je l'ai entendu il y a pas longtemps. Je vois à la radio, il parlait de ça justement. C'était intéressant.
Ouais. On a remis le contexte un petit peu. Les tirs de Marseille, etc. Donc voici l'article du Midi Libre. Voilà comment il attaque. Nous sommes le pays européen où la population de jeunes qui fument du cannabis est la plus élevée. C'est un point, un fait, quand même. Quelle est la pertinence de notre politique policière et pénale vis-à-vis de la drogue ? Point d'interrogation. Faut-il légaliser le cannabis pour tuer le trafic ? Deuxième point d'interrogation. Voilà, c'est un sujet tabou, dérangeant, choquant même. Ce qui s'est passé à la Castellane, dans le quartier Nord, donc, nous peut quand même à nous poser une question. Quelle est la pertinence de notre politique policière et pénale vis-à-vis de la drogue ? Ce qui s'est passé est banal et hallucinant. Voilà, patron de la police sur qui enterre la Kalachnikov, parce qu'il va dans le quartier tenu par les trafiquants, ça fait quand même bizarre. Des gens qui terrorisent les habitants, qui font et pour faire tranquillement leur business, voilà. La solde du tour du quartier K du quartier, paraît-il, a un chiffre d'affaires de 40 000 euros par jour. 120 000 euros par mois.
Net d'impôts.
1 200 000, voire 1 300 000 par an. Le marché marseillais au total pèserait quelques 120 millions d'euros net d'impôts. Donc oui, il y aura à peu près 100 fois la Castellane, en gros. Hein.
Oui.
Juste pour mettre un petit peu tout ça. Et Marseille n'a pas l'exclusivité. Hein. Tout est contenu depuis longtemps.
Tout est connu depuis longtemps.
Voilà, et c'est déprimant quand même. Voilà, souvent un séjour en prison vaut Légion d'honneur. Voilà, on a des arsenals juridiques, un des plus sévères, mais bon, ça sert a priori pas à grand chose. Sans parler de ce qui se passe en prison, donc qui rappelle un petit peu tous les scandales qu'il y a eu ces derniers temps, en particulier dans les prisons marseillaises. Hein, bon, déjà parce qu'ils sont infects, et deuxièmement parce qu'on y trouve tout et n'importe quoi. C'est-à-dire des armes, des téléphones portables. On se rappelle de ceux qui ont fait des sketchs sur le net, qui étaient en prison et qui ont posté ça sur la toile. Ils se sont fait arrêter, ils ont eu un décomplètement de peine, mais voilà, quand même. Bon, en tout cas, ils se posent beaucoup des questions sur le but de la prison, sur le but de notre politique
répressive.
Répressive. Ouais. Voilà, sinon, dans la conclusion de cet article, il passe tout ce qu'on pourrait faire si on légalisait, c'est ça hein.
Ben oui, et puis ce que je m'attendais à, dans la ligne après, lui dire ça, mais bon, c'est pas écrit. Prévoir une régie du cannabis comme une régie des tabacs. Mais monsieur Michel Richard, une régie du cannabis comme il y eut une régie du cannabis, déjà.
Tout à fait.
Pas une régie du tabac, parce que. Mais bon.
Du tabac,
du kiff et des.
De l'alcool, du tabac et du kiff.
Kiff, ouais, enfin bon, ça mélangeait un peu, voilà. Donc oui, ça a déjà existé.
C'est la régie du tabac et du kiff.
C'est pour ça que, encore une fois, je pense qu'il faut absolument insister sur le fait que la prohibition, c'est finalement la création de l'amnésie collective au sujet du cannabis ou d'autres sujets. Hein, mais
je crois même, si je ne me trompe pas, qu'il y a eu la régie du tabac, de l'opium et du kiff.
Oui, c'était ça, oui.
Entre autres, en Tunisie, Raymond Barre en avait utilisé à cette époque-là, il l'avait dit, mais il a dit à cette époque-là, c'était en Tunisie, c'était à telle époque, c'était à tel endroit.
Voilà. Et ça, cette régie, elle a fonctionné jusqu'en 1953, je crois bien, et on l'a finie, on l'a fermée parce qu'elle était plus rentable. Ce qui fait quand même... presque sourire aujourd'hui, hein, quand on voit que le marché du cannabis à Marseille pèserait 120 millions d'euros net d'impôts.
Ouais. Voilà, donc après, si c'était légal, hein, les joints seraient garantis
non frelatés.
Il y aurait beaucoup moins de quartiers, d'économies souterraines dans les quartiers, elles seraient mises à mal, les prisons seraient soulagées, les jeunes pourraient être un petit peu plus tranquilles. Voilà, et après, il faudrait peut-être s'occuper plus d'interdire aux jeunes de boire, de fumer même des cigarettes au tabac sans rien dedans, puisqu'à priori, ça devrait être interdit au moins de 18 ans, quoi. C'est interdit au moins de 18 ans, il ne me semble pas que ça soit beaucoup respecté. Voilà, donc déjà, s'attaquer à ça, ça permettrait de faire reculer d'autant le premier choix. Autre chose à dire ou on se fait éviter un petit truc de musique ?
Non, juste, moi j'aime bien la toute fin de cet article et il dit « Il est des révisions qui ne sont pas des reculades ». J'aime bien ça. Seulement un pragmatisme qui ne nuirait qu'aux trafiquants qui, pour l'heure, pourrissent nos quartiers et empoisonnent nos jeunes. Voilà, je trouve que c'est bien parce qu'on entend beaucoup ça hein, dans la bouche de beaucoup de commentateurs ou de politiques, c'est que si on légalise, ça veut dire qu'on cède. et qu'on finalement on baisse les bras. Ben non. Voilà. C'est pas une reculade. Merci monsieur Michel Richard du Midi Libre. Allez, oui, musique.
Tout à fait.
Tous les jours c'est pareil. À 8h moins.
T'as du feu ?
J'arrive au bar, je commande un café, un calva, deux calvas, trois calvas, un blanc sec, et il part au travail. Il en sort à midi, il retourne au bar, il boit un pastis, deux pastis, trois pastis, quatre pastis, cinq pastis, un demi, et il commande à déjeuner. Il commande un pichet de rosé, un pichet de rouge, un café, un cognac, deux cognacs, puis il retourne à son travail.
On vient de s'écouter Il se décolle ton joint de Pierre Vassilou
qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Voilà, donc il nous reste pas beaucoup de temps, 5 minutes.
Voilà, très vite, tout à fait. Le Figaro relate un truc, un programme multimodal qui peut aider la personne à arrêter. Donc c'est pour contre l'addiction au cannabis. Oui,
pour faire vite, un article de la rubrique santé du Figaro qui nous parle d'un programme multimodal pour aider la personne à arrêter le cannabis. On va pas y passer des heures, mais on va quand même en parler deux minutes. Il y a peut-être des, on ne sait pas, mais il y a peut-être des individus, des personnes qui nous écoutent, qui sont usagers et qui veulent des conseils pour arrêter, bon, pourquoi pas.
Voilà, donc c'est SOS Addiction, hein, tout à fait, qui s'occupe de ça. Il y a son site, hein, www.sos-addiction.org. Voilà, et là c'est le docteur Laurent Carilla qui est interviewé. Donc.
Voilà, Carilla, mon addictologue un peu médiatique avec Benyamina, hein, qui s'exprime souvent, ou Lovenstein, hein. D'ailleurs, tout un tas d'acteurs, hein, qui sont des anti-prohibitionnistes, hein, faut le dire, malgré tout ce qu'on peut entendre de leur part. Ils sont instrumentalisés par les médias qui veulent les faire passer pour des opposants à tout changement sur la législation sur les drogues. Et en fait, non, c'est complètement faux. Voilà, mais bon, pour faire vite, en tout cas, voilà, le journaliste lui demande comment favoriser le sevrage de cette drogue, donc le cannabis, considéré comme 12 points d'interrogation. Alors, Carilla, il fait bien d'expliquer que ben il n'y a pas de médicament pour lutter contre ça. Il n'y a pas de traitement de substitution comme il y en a pour les opiacés, par exemple, avec le Subutex ou la méthadone. Mais il parle d'un programme multimodal, c'est-à-dire avec une infirmière, un psychologue, un psychiatre, un généraliste, pour aider la personne à arrêter, c'est-à-dire une équipe de soignants qui étaye en fait l'individu et qui l'encourage à se passer du produit, en fait. Et quel qu'il soit, on parle là du cannabis, on pourrait parler de beaucoup de choses. D'ailleurs, c'est ce que dit Carilla, la dépendance. Le journaliste lui demande, mais la dépendance, elle est quand même pas surtout liée au produit consommé. Et Carilla, il dit, à vrai dire, peu importe les substances en matière d'addiction, en fait, hein. Ce qui accroche le consommateur, c'est d'abord la disponibilité du produit, le vécu de ses premières expériences de consommation, son développement personnel, l'interaction avec l'environnement. Voilà. Donc, il faut une équipe pour l'aider à arrêter. Donc, il parle, voilà, on met en place un sevrage de 3 semaines, soit en hospitalisation, soit en consultation, afin de parer au plus urgent, comme la motivation au changement, avec des entretiens motivationnels, des bilans de santé psychique et physique. Puis nous passons à la phase de prévention de la rechute avec de la thérapie cognitive et comportementale. Et en quoi ça consiste alors ? Eh ben, elle vise à renforcer la motivation du fumeur à arrêter, car malgré son désir et le déclic, la prise de conscience personnelle qu'il a pu éprouver, il faut travailler sur les obstacles potentiels, il faut apprendre au sujet à savoir dire non, à reconnaître, à gérer, à lutter contre ses envies, en adoptant certaines stratégies et si nécessaire, envisager ensuite une psychothérapie plus approfondie, comme la psychanalyse.
Voilà, c'est bien un psychanalyste, voilà. Je m'en suis.
Voilà. Mais une approche qui n'a pas changé depuis une quarantaine d'années, hein, d'ailleurs. Voilà, on privilégie l'intervention psy. Hein.
Voilà. Mais
ce qui marche peu. Hein.
Ce qui marche peu, mais n'empêche, il a une réflexion intéressante. Hein.
Oui.
C'est pas le produit, c'est le comportement.
Voilà.
Voilà, donc ce qui est dans les choses qu'on répète quand même depuis longtemps.
Juste pour terminer là-dessus, vous avez peut-être vu, alors peut-être que ça peut intéresser certains de nos auditeurs ou auditrices. Il y a des pubs qui passent maintenant un peu à la télé, et s'appellent au sujet des consultations jeunes consommateurs. Si parmi les personnes qui nous écoutent, vous pensez relever d'une prise en charge médicale, on va dire, ou de l'ordre du soin, puisque vous sentez ou l'un de vos proches est visiblement addict, alors, à quelque chose, hein, un jeu, une substance. Voilà, ben il y a ce qu'on appelle des consultations jeunes consommateurs pour plutôt des jeunes, voilà, éventuellement de jeunes consommateurs de cannabis, ce qui y arrive en effet. Voilà, c'était le petit point soins, prévention, accompagnement médico-social.
Voilà, moi juste une petite brève pour faire sourire, c'était en Hollande que ça s'est passé. C'est la police hollandaise de Haarlem qui a tweeté une photo, pas de neige sur le toit du voisin. un point d'interrogation. Et
cultivez-vous de l'herbe.
Cultivez-vous de l'herbe, voilà. Et... Mais c'est peut-être pas la seule raison pour laquelle...
Il n'y a pas de neige sur votre toit. Apparemment, un sèche-linge ou une pièce chauffée normalement peut éventuellement faire tomber la neige sur votre toit et sans que vous cultiviez du cannabis. Mais en tout cas, les policiers ont l'œil et ils regardent ça.
Voilà,
c'est
donc,
ça qu'il faut savoir surtout.
On va s'arrêter là, hein, malheureusement. On va pas parler des États-Unis, on va pas parler du Nouveau-Mexique, on va pas parler du Colorado,
bon,
de tout l'argent qu'ils font, etc. Voilà. On va pas parler non plus des start-up, du cannabis-ness. Et là, les start-up, c'est Snoop Dogg qui
veut investir. C'est Snoop Doggy Dogg qui veut investir dans une start-up du cannabis. Et c'est pas étonnant, Snoop Dogg qui visiblement apprécie beaucoup le cannabis. Et qui anime des émissions de télé où il a bien fumé avant ou même pendant, puisque des fois il retire ses lunettes et visiblement il a commencé tôt le matin. Donc bon, c'est pas surprenant qu'il cherche à investir dans une start-up du cannabis. En tout cas, il pourrait débourser 25 millions de dollars, voilà, pour investir là-dedans, quoi. Et on n'est pas très étonné. Quoi.
Voilà. Allez, ciao à tous, ciao à toutes.
Bonne soirée. C'était le Cannabis Circus, l'émission du Cirque Lyon. Voilà, que t'as oublié de dire ça, c'est important.
Ouais. Ciao à toutes.
À la semaine prochaine.